jour, c'est le pasteur Thibaut de Larvel de l'église protestante de La Réunion à La Source qui vous accueille pour l'émission Parole. Ce matin, alors que je réfléchissais au thème de l'émission d'aujourd'hui, j'avais en mémoire le petit livre d'un de mes anciens professeurs de théologie qui portait sur la parole. Et voilà, qu'en recherchant, je ne l'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque. Je ne sais plus très bien s'il est resté dans des cartons en métropole ou si je l'ai prêté ou si je l'avais consulté et qu'il n'était pas à moi. De mémoire, ce petit livre partait de l'idée que le champ sémantique autour de la parole, de la bouche, du gosier, était absolument considérable dans la Bible. Et ce qui révélait, ce qui montrait le caractère, pourrait-on dire, surpuissant de la parole. Parole capable aussi bien d'édifier et de faire vivre que de détruire et de faire mourir. Je pensais à cela, je pense, parce que, naturellement, en période électorale, la parole est un enjeu considérable. Chaque candidat, chaque courant politique, mais aussi chaque groupe de pression, syndicat, lobby, organisation, association, font entendre la leur de la façon la plus forte, pour peser si possible dans les débats et ainsi se faire entendre. Et bien entendu, cette parole n'a d'écho, de résonance possible, qu'à travers la parole médiatique. Et à ce propos, il est de plus en plus évident que la parole médiatique relaie plus volontiers et contribue donc à son succès les formes de la parole qui sont les plus superficielles que les fonds. En effet, aujourd'hui, il n'y a plus de doute à avoir sur le fait qu'il vaut mieux dire la pire ânerie, caricaturale, fausse, voire méchante, et ainsi se faire relayer dans les médias que d'avoir une parole mesurée, profonde, sensée, parfois un peu indécise, parce qu'elle n'intéressera personne, faute de force, faute d'être immédiatement percutante. Alors, je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas en disant cela de se laisser aller à un tout fou le camp et de céder à la nostalgie, car il faut reconnaître que ça fait bien longtemps qu'il en est ainsi. Dans la Bible, des gens se plaignent constamment que les paroles sages sont recouvertes et gagnées par celles des insensés et des méchants. Et dans le monde grec de la philosophie, le grand combat, c'est celui de la parole philosophique, parole difficile, parole qui se veut au service de la vérité, contre la parole des sophistes, une parole séductrice qui est destinée essentiellement et exclusivement à obtenir les suffrages du plus grand nombre, lors des débats, des procès, des discussions. Rien de nouveau donc sous le soleil. Si nos médias préfèrent la forme sur le fond, s'ils préfèrent la surface, c'est simplement qu'ils n'ont de toute façon pas vraiment le choix. Qu'ils doivent, dans certains cas, être non plus médias, mais immédiats, sous peine de se faire déclasser par d'autres beaucoup moins scrupuleux. Nous le savons très bien, la liberté de la presse ne veut pas dire la vérité de la presse. Tout comme la liberté de parole ne veut pas dire la vérité de parole. Et c'est bien ça qui nous fait si souvent mal et nous rappelle que l'enjeu de la parole, c'est souvent un enjeu de pouvoir, et non un enjeu comme ça devrait l'être, de vérité et de justice. Pour le dire très simplement, on peut dire que la vérité de la parole peut en gros être jugée à deux niveaux différents, pas forcément d'ailleurs, de niveaux opposés. D'une part, la vérité de la parole peut être jugée de façon objective, c'est-à-dire par l'adéquation de la parole avec la réalité. Si, par exemple, je dis que la Terre est plate, je dis quelque chose qui n'est pas en adéquation avec la réalité, donc je dis une fausseté. Mais d'autre part, la vérité de la parole peut être jugée sur le plan subjectif, de façon subjective, c'est-à-dire cette fois-ci par la crédibilité de celui qui parle. Pour prendre un exemple un peu extrême, je peux dire que la Terre est plate, ce qui est faux, non pas parce que je suis un menteur, donc quelqu'un qui n'est pas crédible, mais parce que je me suis trompé dans mes observations et que j'ai dit les choses en toute bonne foi. J'ai dit la vérité de ce que je pensais et croyais, même si c'est faux. Et du coup, on peut aussi dire quelque chose qui est objectivement vrai, mais avec une volonté de tromper, au sens de ne pas engager sa parole de façon fiable. C'est d'ailleurs ce qu'on pourrait appeler la perversion. La perversion, selon une formule heureuse, c'est de mentir avec le vrai. Par exemple, dans la Genèse, dans le livre de la Genèse, le serpent dit à Ève des choses qui ne sont pas fausses. Il n'invente rien, puisque les choses que le serpent dit reprennent objectivement quelque chose que Dieu a dit. Mais dans la manière dont le serpent présente ces choses-là, il fait porter le doute dessus. Et il modifie suffisamment la place des mots, et notamment de la négation qui fait passer de l'interdit à l'interdiction, pour que la crédibilité de la parole de Dieu vole en éclats. Encore une fois, on peut mentir avec le vrai, donc être dans une vérité objective, mais la pire fausseté subjective. De la même façon, on peut dire qu'il y a deux façons d'obéir à une parole ou de lui être fidèle. De façon objective, je fais ce que la parole dit en termes de commandement, de contenu. Et d'ailleurs, un auteur qui prenait l'exemple de l'interdit dans le judaïsme de faire certaines plantations en terre d'Israël. Et il disait que pour contourner cette interdiction, il suffisait de mettre les légumes en question sur des paliers en bois. Comme ça, on peut dire, eh ben voilà, ça pousse pas sur la terre d'Israël, ça pousse sur un support en bois. Donc on voit bien qu'il y a une façon objective d'obéir, mais qui est peut-être pas forcément une obéissance sincère, ou en tout cas une obéissance correcte. Et il y a la façon subjective. Je crois en celui qui parle, je lui donne du crédit, je me fie à lui. Et on se doute bien donc qu'obéir objectivement peut être une façon déguisée de ne pas obéir réellement. C'est ce que Jésus et les apôtres après lui désignent comme hypocrisie. Et mon exemple sur les légumes en terre d'Israël l'illustre bien. J'obéis à la loi, à l'objectivité de la loi, en l'occurrence de ne pas mettre les légumes dans la terre, mais ce n'est pas par amour, mais plutôt par intérêt. C'est-à-dire que je vais contourner la chose pour le faire quand même. Et du coup, je n'obéis pas réellement à Dieu qui a donné le commandement. Et les exemples de ce genre d'hypocrisie, bien évidemment, ne manquent pas dans le reste du monde, qu'il soit politique ou religieux. De la même façon que obéir subjectivement implique parfois de ne pas obéir objectivement. Le cas classique que l'on rencontre, ce sont par exemple lors des dernières volontés d'un défunt. Quelqu'un vient de mourir, il a laissé ses dernières volontés, mais il n'a pas prévu que l'application de ses dernières volontés allait mettre ceux qui restent dans une situation impossible et problématique. Alors du coup, les gens sont devant l'alternative, faut-il du coup obéir objectivement à un ordre devenu inhumain au risque d'en payer le prix? Ou faut-il penser que le défunt aurait compris qu'il valait mieux faire autrement et donc ne pas respecter l'objectivité des choses mais en garder l'esprit? Encore des mots, toujours des
mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon mot.
Voilà mon destin. Te parler. Te parler comme la première fois. Sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot. Juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon nom.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle. Tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, 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 parole. Encore des paroles. Que tu sais mon mot.
Je réfléchissais un peu à tout cela, de façon désordonnée. Ce qui fait que je n'étais pas très motivé pour en discuter lors de cette émission. En effet, en général, je préfère avoir le temps de mettre en ordre mes idées de façon à leur donner une meilleure cohérence. Et puis, je suis tombé sur le psaume 58 qui, surprise, est fortement axé sur la parole et sur cette réflexion. Et c'est ce qui fait que je me suis décidé à en parler. Car justement, ce psaume commence par « En vérité ». Est-ce en vous taisant que vous rendez la justice ? Ce qui est très fort puisque cela indique de façon explicite qu'en réalité nous sommes tous et tout le temps dans la parole. Donc dans cette relation objective et subjective qui touche à la vérité, à la justice, dans notre rapport aux autres et à Dieu. Qu'il n'y a pas moyen d'en sortir et que le silence, se taire, ne permet pas d'y échapper. Et après tout, nous le savons très bien, se taire, c'est très souvent, trop souvent, une complicité à ce qui est. Il est donc extrêmement salutaire, comme le fait ce psaume, de rappeler ceci, on n'échappe pas, par la parole, à sa responsabilité. Responsabilité signifie répondre. Nous sommes toujours en position de réponse et nous ne pouvons pas rester silencieux. Rester silencieux est toujours une façon de répondre. Ce qui est encore assez remarquable avec ce psaume 58, c'est que ce psaume, par la suite, dénonce des fraudes, donc ce qu'on pourrait appeler des mauvais agissements, des mauvais actes. Mais il les lie justement à la parole. En effet, souvent, en distinguant entre les paroles et les actes, on entend souvent ce refrain de chanson qui dit « des paroles », manière de dire que les paroles ne comptent pas si les actes ne sont pas derrière. Et donc, en distinguant entre parole et acte, nous posons très souvent une hiérarchie implicite qui met les actes au-dessus. Si les actes ne suivent pas, les paroles ne valent rien. Et c'est probablement d'ailleurs ce qui explique que le mépris fort développé pour la parole, puisque souvent on ne se soucie pas tellement de dire une chose et son contraire, puisque on pense que ce qui compte, c'est la finalité, et que c'est par la finalité que sera jugée notre attitude. La fin justifie les moyens, et on a tendance à penser que comme on veut une bonne fin, on peut se permettre de tordre la parole dans tous les sens. Or, si comme je le disais tout à l'heure, si les actes ne suivent pas les paroles, si les actes sont en contradiction avec les paroles, il est évident que la parole est douteuse, voire fausse. Ce serait pourtant assez réducteur de penser que ce sont les actes qui sont décisifs, qui sont premiers. Car d'une part, on sait très bien que faire les choses sans dire, sans expliquer, donc sans partager avec l'autre, peut être vécu comme un asservissement. Même si vous faites des choses bonnes à quelqu'un, si celui-ci se sent seulement au bénéfice, sans être partie prenante, sans avoir le sentiment d'avoir été écouté, consulté, les choses risquent d'être mal vécues et mal se passer. Et d'ailleurs, c'est l'anthropologue Marcel Mauss qui montre combien, dans certaines cultures, le fait d'offrir quelque chose à quelqu'un, c'est une façon de l'asservir. Et on peut faire le jeu de mots en disant que très souvent, comme la langue anglaise et allemande le suggère, le cadeau est un poison. C'est pour ça que l'expression « le cadeau empoisonné » finalement est assez forte. L'humain n'est pas un animal, il vit mal le fait d'être pris dans des actions sans qu'on lui donne une place responsable. D'ailleurs, à ce propos, lors d'une réunion en métropole, un collègue pasteur, qui est directeur d'un établissement pour les malades psychiatriques lourds, nous expliquait que dans le monde médical, dans ce monde médical-là, les soignants se rendent de plus en plus compte que de faire participer le malade à son protocole de soins permettait de meilleurs résultats que de simplement le prendre comme un simple porteur anonyme d'une maladie à combattre. Au fond, se rend compte que la dimension subjective, interpersonnelle, la dimension qui laisse une place à l'autre comme sujet de la relation, est absolument décisive, y compris dans des choses comme la santé. Et d'autre part, en réalité, le pouvoir de la parole est bien plus grand que celui des actes, tout simplement parce que la parole est déjà un acte. En hébreu, la langue de l'Ancien Testament, le verbe « dabar » signifie à la fois « dire » et « faire ». Et c'est pourquoi Dieu crée le monde par la parole. Et nous le savons très bien, en fonction de la parole reçue, de la parole vécue, certains actes pourront découler ou au contraire être complètement impossibles. À quelqu'un à qui on a dit par exemple durant toute son enfance qu'il était un incapable, eh bien il y a fort à parier que devenu adulte, même avec toutes les potentialités du monde, il aura beaucoup de mal à faire les choses et à se sentir bien en les faisant. Du coup, au-delà des actes, et donc de l'éthique ou de la morale, on ne distingue pas les deux ici, reste la question de la parole qui gouverne. Est-ce qu'il y a d'abord sur nous une parole négative, une parole au fond qui nous maudit, c'est-à-dire qui dit du mal de nous et sur nous, même de façon secrète, détournée, inconsciente? On imagine que les parents qui ont dit à leur enfant qu'il était un incapable n'ont pas eu l'impression d'avoir sur lui une parole de malédiction. Ou est-ce qu'il y a plutôt une parole positive, une parole qui fait grandir, qui ouvre, qui donne une place, qui rend libre, au fond qui nous bénit, c'est-à-dire qui dit du bien de nous et qui dit du bien sur nous. Dans l'évangile de Jean, par exemple, lorsque Jésus dit de façon très violente à ses interlocuteurs qu'ils ont le diable pour père, il indique justement ces deux paroles possibles sur nos vies. Une parole de mort, de destruction, d'aliénation. Le diabolos, au fond, c'est celui qui divise, qui démantèle. Le diabolos, c'est l'inverse du symbolos. Le diable, c'est l'inverse du symbole. Ou alors, une parole de vie, de bénédiction. La parole du Père qu'il révèle. Encore faut-il, pour distinguer les deux, pour prendre conscience de ces deux paroles, très souvent, nous sommes bien sûr aux prises avec les deux à des degrés différents. Encore faut-il commencer par admettre que nous sommes justement des fils et des filles. Fils et filles de parole. Et ce qui n'est pas évident en cette époque où l'humain est beaucoup trop conçu comme étant sa propre mesure. Comme étant le sujet transparent de ses actes et de ses paroles, alors que très souvent, il en est le fruit. C'était le pasteur Thibaut de la Ruelle. Je rappelle que si vous souhaitez réagir, vous pouvez me contacter au 02 62 41 63 91, 41 63 91. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, podcaster l'émission sur le site égliseprotestante.re.